Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end. Les GG, c'est l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport dans quelques instants, la une des GG, c'est le jour de Teddy Riner en quête d'un 11e titre mondial, mais son dernier c'était en 2017. Teddy Riner, de nouveau champion du monde. Avez-vous un vrai doute? À 10h, le bras de fer des GG, l'OM s'est plaint cette semaine de l'arbitrage à coup de communiqué. Il y aura une team, c'est indigne de l'OM. Une team, c'est digne de l'OM. Et puis 11h, la seconde des GG, Lionel Messi, pourrait bientôt rejoindre son éternel rival Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. L'Argentin pourrait flancher devant la tonne de billets proposée. Faut-il traiter les deux plus grands joueurs de notre époque de mercenaires? Ce sera notre question, Lionel Messi, qui va retrouver le Parc des Princes ce soir pour son avant-dernier match. On en parlera. Et puis ne manquez pas votre séquence dans les GG, vous en avez pris désormais l'habitude. Le guet-apens, le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir tout vous dire. À 10h, je passerai dans les rangs pour savoir quel débat vais-je vous proposer aujourd'hui, ce matin, dans les grandes gueules du sport. Les GG, justement, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme Teddy Riner, malgré tous les signaux envoyés par son corps, refuse de raccrocher. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Et je vais encore être champion du monde aujourd'hui, mon petit gars, alors que tu resteras champion d'académie.
Champion d'académie, carrément. Mais tu as quel âge dans ta tête pour parler de champion d'académie, mon cher Christophe?
Très jeune, très jeune.
Tu es vraiment bien.
Beaucoup plus jeune que notre Denis Charvet qui vient d'avoir... Enfin non, ça fait un an déjà qu'il a sa carte vermeille quand même, faut le féliciter. Son anniversaire, c'était hier soir. C'est pas mal quand même.
T'es pas obligé de donner l'âge, mais bon.
J'ai pas reçu d'invitation pour cet anniversaire.
Ouais, il y en a pas eu.
T'as quel âge, Denis?
Ça se fait plus à cet âge-là.
Combien?
61, je vais pas cacher mon âge. Par honte de mon âge.
T'es beau, hein.
Ouais, il est beau, c'est vrai.
Tiens, je vais te présenter maintenant.
Allez, vas-y, si tu me le permets.
Une grande gueule qui, comme Teddy Riner, a réalisé ses plus belles performances en peignoir. Denis Charvet, salut Denis.
Elle est pas mal.
C'est vrai, non?
Ouais. Elle est peut-être pas vraie non plus.
Si, elle est plutôt vraie. Une grande gueule qui, comme Teddy Riner, est dans la catégorie des lourds, voire des très lourds. Stephen Brun, salut Stephen.
Salut JC, salut tout le monde.
Tout va bien, mon Steve?
Ouais, super, en pleine forme.
Go la Roca Team?
Oui, go la Roca Team.
Final Four, on en parlera un petit peu plus tard dans cette émission.
Avec grand plaisir.
C'est un exploit, ouais, on peut le dire.
Oui, enfin, ils étaient quand même favoris du quart de finale. Donc oui, mais pour le basket français, c'est un exploit.
Ok, on en parlera un petit peu plus tard. Et puis une grande gueule qui, contrairement à Teddy Riner, n'a pas d'or chez elle. Non, elle a beaucoup d'argent. C'est Marie Martineau. Ah. Salut Marie.
Salut, ça va, moi j'y
sais. Oui, ça va, très bien, toi.
Tu sais qu'une fois, il y a longtemps, tu remplaçais, à l'époque, tu étais le joker de Christophe.
Il y a longtemps.
Tu avais encore les cheveux.
Depuis, on a mis quelques pots de banane, mais vas-y.
Non, mais pour moi, c'était un peu mes débuts. Et tu m'avais fait un... Moi, je te connaissais pas du tout, je savais pas que t'avais cet humour-là et tout, j'étais un peu terre à terre. Puis tu m'avais fait une espèce de vieille vanne un peu vaseuse sur le fait que j'ai que de l'argent, que j'avais mal pris. Et après, en sortant, je m'étais dit, il va vraiment croire que j'ai le boulard parce que j'ai mal pris sa pauvre vanne sur l'argent. Je t'avais répondu un truc genre, bah, et toi, t'en as déjà eu des médailles d'argent, tu vois, tu sais, la rageuse.
Tu veux dire que.
Et on 10
ans après,
parlé.
Il refait la même vanne, quoi, c'est ce que tu es en train de dire.
C'est aussi ça.
Voilà. Non, c'est juste 3-4 ans.
Et de toute façon,
je pense qu'on a filé une émission à un mec qui fait des vannes pourries comme ça depuis 10 ans.
Et qui les répète.
C'est complètement dingue. Je ne sais pas où est la tête des dirigeants d'RMC. Oui,
mais c'est ça. La compétence ne vient pas de moi, mais peut-être de la direction. Bon, on a débuté cette émission. En tout cas, Marie, j'ai toujours pensé que tu avais le boulard. Ça n'a pas changé. Allez, on débute cette émission avec cette citation d'Anatole France qui a dit un jour, il faut douter du doute.
La une des grandes gueules du sport.
10 secondes encore pour Riner. La numéro 10, Riner est le maître. La majesté, Riner, le numéro 10. Le Maradona du judo, Teddy Riner, le 10 avec les doigts, c'est fait.
Ça y est, Teddy Riner est champion olympique. C'est fait. Bravo garçon, c'est génial. C'est trop fort, il est beaucoup trop fort.
La vérité c'est que quand je monte sur un tapis, j'ai peur.
C'est le golden score, le premier qui marque a gagné. Mouvement d'épaule de Bachaev. Il pousse Teddy Riner sur le dos.
On y allait tous assommés, je crois. Teddy, c'est un monument du sport français. C'était le champion des champions.
Aujourd'hui, c'est un jour sans médaille. C'est vrai que ça fait bizarre, mais ça fait partie du jeu. Le sport, c'est ça. C'est des victoires et c'est aussi des défaites. Mais bon, c'est recul pour mieux sauter.
Ne pas sortir du tatami, Teddy. Ne pas sortir du tatami. L'attraper, le jeter dans 2 secondes. Champion olympique, Teddy Riner. Champion olympique. Le doigt sur la bouche, c'est le meilleur.
Je reviens de très loin, moi. Je reviens de très très loin.
C'est le grand jour pour Teddy Riner qui repart à la conquête d'un titre de champion du monde. Lui qui en a déjà conquis 10 à 34 ans, le judoka le plus titré de l'histoire des poids lourds, veut prouver, malgré plusieurs blessures ces dernières années, qu'il est toujours le plus grand. 6 ans après son dernier titre mondial, 7 ans après son dernier titre olympique en individuel. La musique qui fout les jetons est cette question. Alors Teddy Riner, aujourd'hui de nouveau champion du monde, avez-vous un vrai doute? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Oui.
Marie Martineau?
Absolument pas.
Stephen Brun?
Oui.
Denis Charvet?
Non.
J'ai deux oui, deux non, ça tombe bien. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à Doha au Qatar. C'est Morgane Maury, notre spécialiste judo. Salut Morgane.
Bonjour les GG, et bonjour Morgan. À tous.
Morgan. Alors Teddy Riner, son camp, est-ce qu'ils sont confiants, eux?
Oui, le clan de Teddy Riner y croit. De toute façon, Teddy Riner, s'il s'aligne sur une compétition, c'est qu'il estime qu'il a les moyens de l'emporter. Il est 10 fois champion du monde et il vient respirer l'air du danger d'un mondial pour la première fois depuis 6 ans. Alors 6 ans pendant lesquels l'armure s'est un peu fendue. Teddy Riner est aimanté par l'objectif Paris 2024. Alors pour cela, le judoka du Paris Saint-Germain a dessiné un plan de bataille. Il a beaucoup voyagé, Kazakhstan, Japon, Hongrie et au pays du soleil levant. Il a croisé la route de Tatsuru Saito, l'un des deux japonais présents dans son tableau au Qatar. Dans une interview au site iJudo, Saito a lancé: je suis certain que Riner n'est pas dans sa meilleure forme, en revanche il le sera à Paris l'an prochain. Le Guadeloupéen ne dément pas.
Il a osé dire ça. Il a raison. Je vais pas le contredire, il reste encore juste 30% à aller chercher pour être dans l'excellence.
Le Français s'est étalonné au mois de février dans son cocon de Bercy. Une victoire de la confiance et des doutes un peu enlevés à cause de ce corps qui craque, qui l'a gêné ces dernières saisons. Ce corps tient le choc maintenant. Riner a 34 ans et il doit réussir l'équilibre entre quantité d'entraînement et qualité, un subtil dosage, mais aussi sortir en compétition, car rien de mieux que le stress d'un tournoi, la tension d'un adversaire qui veut vous passer à la moulinette pour faire un état des lieux. Ces mondiaux vont ressembler aux JO sur sa route, les principaux cadors qu'il devrait retrouver dans un an à Paris. Riner le répète, mais on n'est pas obligé de le croire, au Qatar, il vient noircir son cahier.
Les championnats du monde vont me permettre aussi d'aller chercher la concurrence, d'aller me situer par rapport à cette concurrence. Parce que ce que je ne veux pas, c'est arriver au jeu et passer à côté de cet événement. C'est d'aller chercher les mecs, s'entraîner, parce que c'est pour moi, ça va être une journée d'entraînement, même si c'est un championnat du monde. Et à la fin de la journée, on fera les totales, les totaux.
Voilà, avant d'embarquer direction Doha, Riner a annoncé qu'il allait se lâcher. On en sa livre d'avance car il y a 6 combats pour aller au bout et le gratin face à lui. Il n'y a pas meilleure scène pour remontrer son visage des grands jours.
Et on espère que nous allons suivre ces 6 combats avec toi, Morgane Maury. Ça voudrait dire qu'il y a une belle performance au bout pour Teddy Riner. Tu restes avec nous, Morgane, et tu nous raconteras un petit peu plus tard justement son programme de la journée. Teddy Riner, de nouveau champion du monde, avez-vous un vrai doute? Oui ou non? Vous pouvez participer au 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je commence avec un oui, j'ai un doute. Pourquoi, Christophe Cessieux?
C'est pas parce que tu as gagné 10 titres de champion du monde, 2 titres olympiques en individuel, que tu es invincible ad vitam aeternam. À un moment donné, même s'il a été le plus grand champion sans doute de l'histoire de ce sport dans sa catégorie, mais comme tout le monde, Teddy vieillit, Teddy espace les compétitions et à un moment, la machine de destruction va commencer à s'enrayer. J'espère que ce sera le plus tard possible, après Paris 2024, mais à l'entame de cette compétition, oui, il y a un doute. Forcément, il y a un doute parce que pendant des années, les mondiaux pour Teddy, c'était une formalité ou presque. Qui montait sur le tatami, il était quasiment assuré de remporter. C'était un peu le jour de la marmotte, le Teddy's Day, tu sais.
C'est ça.
C'était un jour sans fin qui se répétait tous les ans à pareille époque. Il marchait sur ses adversaires. Là, il y a un tout petit doute. D'ailleurs, c'était plus très passionnant à la fin. Tu savais qu'il allait gagner le titre. Là, c'est génial parce qu'il y a le petit doute, il y a ce jeune japonais là dont Morgane a parlé et on sent qu'il y a quand même un petit peu d'animosité entre les deux, qui fait que voilà, on va se régaler. Aujourd'hui, moi je vais suivre tous les combats de Teddy alors qu'il y a 4-5 ans, je ne les regardais plus. Et je me dis que s'il gagne cette compétition avec les adversaires qu'il a, il a sans doute, peut-être Morgane pourra en parler tout à l'heure, l'un des tableaux les plus durs qu'il ait jamais eu en compétition, avec que des roches, des gauchers,
pas protégé,
que des
gauchers. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, exactement.
Donc là, s'il devient champion du monde, sera grandiose.
Ok, Marie, toi, t'as pas de doute?
Non, moi, j'ai aucun doute. Alors, j'en avais un petit peu parce que j'avais pas vraiment conscience de la situation, mais du coup, j'ai appelé des amis qui font du judo et qui m'ont confirmé qu'il n'y avait absolument aucun doute. Alors, pour plein de raisons, la première étant que personne n'a vraiment pris la place de Teddy Riner en son absence, entre guillemets, hein, mais depuis 2017, il y a personne qui vraiment domine sur les plus de 100 kilos. Donc, déjà, ça m'a un peu rassurée. Après, Teddy, il a un kumikata, c'est-à-dire un grip dans les mains que personne d'autre n'a non plus et qu'il est vraiment le seul à avoir, ce qui donne une espèce de puissance assez démesurée. Le fait est qu'il a un physique hors norme et que ça, il l'aura toujours et que ça lui confère aussi une supériorité par rapport aux autres. Ça commence à faire beaucoup de raisons d'y croire. Il a perdu du poids. Très récemment, là, depuis quelques semaines, quelques mois, il est vraiment affûté et ça en dit long sur sa volonté de réussir ces mondiaux-là. Et si on avait pu lui reprocher d'avoir un petit peu grossi, là, il est vraiment quand même si il est malin et qu'il dit qu'il lui reste 30% de... Moi, je dirais pareil. Franchement, si j'étais hyper en forme et que je voulais mettre un coup de massue à mes adversaires sur des mondiaux, je dirais ouais, ah, il m'en manque un peu, je suis pas au top, quoi. Comme ça, il va les démonter et puis comme ça, il va leur dire qu'en plus, il a de la marge pour la suite.
Ok, il y a un petit peu de com' d'ailleurs. Cette semaine, son entraîneur Franck Chambilly a déclaré qu'il est à 60% de sa forme. Ouais, et nous, notre objectif, c'est les Jeux Olympiques. Alors, c'est peut-être de la com', mais c'est peut-être vrai aussi. On va le vérifier aujourd'hui avec Teddy Riner. Toi, t'as un doute, Stephen Brun, pourquoi?
Parce qu'on n'a pas de repère en fait sur Teddy Riner. Et quand tu combats quasiment plus jamais, quand tu enchaînes pas mal de pépins physiques, que tu perds à Tokyo en 2021, que tu n'es plus le judoka invincible, que pendant 10 ans, tu as gagné 154 combats de suite, mais que tu te fais tapé au Grand Slam à Paris en 2020 par un Japonais, que tu perds au championnat de France par équipe avec ton équipe du PSG contre un combattant français, et puis cette défaite en quart de finale à Tokyo, je suis désolé, il y a moins de peur. Teddy Riner fait moins peur. À l'époque, son emprise était telle que Christophe l'a dit, il montait sur le tatami, les mecs n'osaient rien faire, en fait, les combats étaient chiants parce qu'il avait déjà gagné. Comme à une époque, si on fait un parallèle au tennis, les Federer et Nadal, ils rentraient sur le court, ils avaient déjà gagné sans jouer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il fait plus peur à ses adversaires parce que les adversaires ne le voient plus combattre. Ils savent que Teddy, le mot déclin est peut-être un peu fort, mais il y a eu beaucoup, il a enchaîné genoux, chevilles, il y a plus de repères de combat en fait, et ses adversaires, peut-être qu'il y a personne a pris le pouvoir sur cette catégorie là, mais ces mecs ont continué de s'entraîner, ont continué de combattre, ont continué de faire des tournois, ont progressé, et aujourd'hui Teddy n'est plus la bête effrayante qu'il a été pendant 10 ans. Donc déjà cet ascendant psychologique, il n'existe plus sur les autres combattants. Après, mais avoir un doute, ça veut pas dire qu'il va pas gagner, c'est pas dramatique d'avoir des doutes. C'est enfin à l'époque on s'ennuyait en fait. Teddy Riner, oui, ok, super, il a gagné. Là, c'est mieux, en fait. Tout le monde est intéressé par cette compétition. Tout le monde a envie de voir Teddy Riner de nouveau sur un tatami. Mais le doute, s'il y en a, quand t'as plus de certitude, quand tu domines plus comme avant, t'as forcément des doutes dans la tête. Mais moi, je crois quand même en Teddy Riner.
Qu'est-ce qu'il y a, Denis Charvet? Je te vois.
Non, parce que je te vois
t'agiter.
Dans ton producteur, m'en dit des choses dans l'oreille. Je lui dis ce que j'allais dire. Je dis que c'est un extraterrestre et que c'est un grand champion. C'est des mecs hors normes. C'est-à-dire que on peut pas avoir de doute avec ces gens-là. Parce que, en fait, s'il vient à un an des Jeux Olympiques faire combattre, c'est qu'il est prêt. C'est qu'il est prêt.
Mais il a besoin de se tester, Denis. Il va pas arriver à Gino.
Peut-être qu'aujourd'hui, ça va me donner.
T'es prêt aux Jeux Olympiques aussi.
Oui, mais
peux perdre. Aujourd'hui, il peut perdre.
Tu me banalises le champion qu'il est. Parce que quand tu dis, bien sûr qu'il a perdu, mais heureusement qu'il a perdu. Tous les grands champions ont perdu dans leur carrière. Mais après, Teddy Riner, c'est un mec qui est à part, qui est hors norme, qui fait partie d'une élite où tu me dis, ouais, il y a la concurrence.
C'est Terminator, mais c'est le mec qui perdra jamais de sa vie. Il perdra jamais de sa vie.
C'est Superman.
D'accord.
Voilà. Et souviens-toi de David Rouillet.
David Rouillet, ouais, un petit peu aussi.
Maintenant, il est devenu Rouillet, d'ailleurs. Il est devenu Rouillet, c'est vrai. Mais David Douillet, souvenez-vous, il est revenu de nulle part, de l'enfer. Et oui, mais
à la fin, il est rôti, David.
Il gagne quand personne ne l'attend. Il devient deuxième fois champion olympique.
En 2000,
personne ne l'attend. Mais c'est un immense champion, comme l'est Teddy Riner. C'est pour ça que je n'ai pas de doute. Alors après, Stephen l'a très bien dit, il peut très bien perdre.
Mais après, on en avait sur Clarisse Agbeninou aussi hier. On n'était pas sûr d'avoir
gagné, et elle a gagné,
donc ça arrive. Même aussi, elle avait des doutes. Elle disait, moi, je pense pas gagner. Si j'ai une médaille, c'est très bien.
Mais heureusement que les champions ont des doutes. On a l'impression qu'avec Denis et Marie, on fait des compètes, on a aucun doute. On est sûr de gagner.
On t'a pas dit les champions, c'est moi qui ai pas de doute. Lui, il t'a dit, j'ai peur, je monte sur ta table.
Mais oui, bien sûr. Alors, moi, je pense qu'on est là pour analyser, en fait. Alors, Stéphane dit, il a moins d'ascendant psychologique parce qu'il a plus tout gagné. Oui, peut-être qu'il le compense avec une expérience de dingue. Parce que vous parlez parlé du petit japonais là, c'est Saito, le fils de Saito. Bon, bah lui, il est pour le coup très jeune et a priori pas si incroyable que ça. Les techniciens disent qu'il est pas si monstrueux que ça. Donc, tu vois, et en revanche, il a pas du tout l'expérience que peut avoir un Teddy. Moi, je rejoins complètement Denis. Il est pas là pour acheter du terrain. Il est venu en connaissance de cause. Il dit qu'il vient voir. Quelle est sa place dans la hiérarchie mondiale?
Saito, c'est lui qui a mis en colère Teddy quand même. C'est lui qui a fait la réflexion en lui disant attention, je pense qu'il a réveillé la bête.
Morgane Maury, justement sur ce point, parce qu'on parlait de com ou pas de com, le camp de Teddy Riner l'a annoncé en tout cas en grande pompe. Nous, on vient préparer les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut vraiment le croire? Il y a même son entraîneur qui nous dit moi, je ne vais pas forcément regarder le résultat ou la médaille, mais plutôt son comportement et son état d'esprit.
Oui.
Vrai ou pas, Morgane?
Oui. Bien sûr, on l'a vu sur le tournoi de Paris, Teddy Riner, il est capable de grandes choses sur les premiers tours. Et quand ça devient un peu plus compliqué, au moment où il faut accepter de lâcher prise pour pouvoir lancer et faire tomber son adversaire, eh bien on ferme un peu le jeu. Et contre certains cadors, ça peut ne pas marcher avec l'âge. Ok, il a son expérience pour compenser, mais il y a besoin de faire du judo. C'est du judo d'attaque qui est valorisé en ce moment sur la scène internationale. Oui, Teddy n'est pas à 100%, il est pesé à 145 kilos. Il a encore besoin de descendre un peu au poids. C'est un des indicateurs qui montre qu'il n'est pas au sommet de sa forme. Il sera autour des 140 kilos peut-être l'an prochain à Paris. Et il a besoin, vous en avez parlé, de compétition. Il sort peu et il a besoin de cette répétition de compétition, de se réhabituer au stress et à l'adversité, d'avoir les gens dans les mains dans les compétitions. C'est ça qui va le permettre de progresser, parce qu'on l'a peu souvent vu. Et un rendez-vous comme ça, c'est riche pour lui.
Se montrer peu, Morgane, moi je pense que c'est un choix aussi. C'est assez intelligent. Et quand tu dis... Jean-Christophe, que il l'a pas, que c'est ce qui est annoncé, c'est ce qu'ils ont bien envie de nous dire. Moi, je suis arrivée au jeu, j'avais le coccyx pété. Évidemment que je suis pas allée vous raconter que j'avais le coccyx pété. J'ai eu Christophe à l'antenne et je lui ai dit ah tout va bien, c'est super, nickel, je suis trop en forme, je vais les démonter.
T'as osé mentir à Christophe?
J'ai menti. Mais tu dis bien ce que t'as envie de dire.
En tout cas, il avait un grand problème de quantité de combat qu'il a essayé de rattraper en faisant ces stages là, et c'est quelque chose par laquelle vous êtes obligé de passer. C'est ce qu'a fait Clarisse Agbenienou aussi, pour revenir sur ses mondiaux. Et elle aussi estimait qu'il lui manquait cette quantité d'entraînement pour être à son maximum.
Mot de la fin, Steve.
Après, j'ai l'impression que Teddy, il vit avec la peur jusqu'en 2024. C'est-à-dire qu'il évite peut-être les combats parce qu'il veut absolument pas se blesser pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques.
Il l'a même exprimé fin janvier.
Et peut-être que c'est un frein pour lui sur ces championnats du monde, avoir peur. Alors, t'es obligé de te livrer à 100%.
Il peut pas gagner.
Mais quand t'as dans la tête, et il nous le répète, moi c'est Paris 2024, t'as peut-être aussi l'impression que ces championnats du monde, comme il le dit, c'est peut-être pas que de la com, c'est juste une étape intermédiaire, éviter la blessure, se jauger face aux adversaires pour être prêt pour Paris 2024.
Ah, c'est pas très grave.
Il n'a peur que de la blessure, pas de l'adversité.
Sauf que tu mets dans la tête de tes adversaires, si t'es battu, que tu peux être battu à nouveau.
Mais là, j'ai déjà été battu.
C'est bien de montrer aux autres que tu restes le taulier quand même. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui.
Avant les JO, c'est forcément important. Premier combat, à quelle heure, Morgane?
Rendez-vous à 11h à Française face au Roumain Vladut Simionescu, 150 kilos, un gros ventre que Teddy a battu trois reprises.
On suivra ce combat en direct sur RMC.
Il a pris son petit déj ce matin, il a mangé 3 Morgan Maury par mois.
et quatre poulets en plus.
Ok, à tout à l'heure Morgan. Dans 1h30, le premier combat de Teddy Riner pour de nouveau être champion du monde. On se retrouve dans quelques instants, la punchline des GG et cette embrouille entre la Fédération Française de Tennis et Benoît Paire. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h30, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Stephen Brun, Denis Charvet, Marie Martineau. C'est votre émission de 9h à midi. On est là le samedi et le dimanche. Comme d'habitude, dans 10 minutes, on s'en fout pas, des informations à vous donner, notamment l'exploit de la Roca Team Monaco qui se qualifie pour le Final Four. C'est du basket, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Ça a été l'un des événements de la semaine, mais tout de suite, autre chose. La punchline, évidemment. Benoît Paire et la Fédération Française de Tennis, épisode 56. Mardi, la Fédé a communiqué les 4 wildcards françaises de l'opération Destination Roland-Garros. Et pas de Benoît Paire parmi les 4, alors qu'il pourrait encore y prétendre. Les organisateurs tentent de faire un petit tour de passe-passe pour ne pas lui donner le précieux sésame, car l'Avignonnais est toujours sous le coup d'une suspension de la Fédé. Benoît Paire conteste cette décision et joue l'étonné. C'est la punchline des GG rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
Le règlement dit que c'est le 15 mai. On ne peut pas revenir en arrière. J'espère que c'est une erreur de la part de la FFT et qu'ils vont la rectifier. Je ne dis pas que je vais gagner le tournoi. Mais tant que ce n'est pas officiel, je ne comprends pas pourquoi ils annoncent ça alors qu'il y a encore cette semaine pour gagner des points. Le 15 mai, c'est le 15 mai. L'ARES, c'est du live qui change tout le temps.
Merci Siri. Notre question, la Fédération Française de Tennis est-elle injuste avec Benoît Paire? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Marie Martineau?
Non.
Stéphane Brun?
Non, plus maintenant.
Denis Charvet?
Non.
Personne? Personne ne va défendre Benoît Paire. Ouais. On va quand même retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous.
Salut Eric.
Question simple. Salut Eric. Réponse simple. Eric, c'est quoi l'embrouille?
L'embrouille, c'est que la FFT, depuis 2 ans, a voulu atténuer les polémiques autour des juteuses wildcard en attribuant 2 invitations au mérite. C'est important le terme. Alors la première, elle a récompensé Arthur Fils, qui a été brillant sur les toits français. Rien à dire. La deuxième va au mieux classé à la race. Alors la race, faut bien préciser, c'est le classement basé sur les seuls résultats de cette année 2023. Donc ça paraît limpide. Et à ce petit jeu, Arthur Fils est le meilleur. Donc comme il n'y a pas de cumul, c'est Hugo Gaston qui menait la danse devant Benoît Paire. La ligne d'arrivée était prévue en fin de semaine. Sauf que, comme tu l'as dit, la Fédé a surpris tout le monde en balançant le nom des récipiendaires, à savoir Fils et Gaston. Alors pourquoi cet empressement alors que Benoît Paire pouvait encore coiffer sur le poteau le Toulousain? La FFT a justifié cette décision en indiquant qu'il n'y aurait pas de classement ATP lundi en raison de la nouvelle durée des Masters 1000. C'est vrai, c'est tout à fait exact, hein, il n'y aura pas de classement ATP. Sauf que tout le monde sait qu'il existe le classement Race qui est actualisé minute par minute. Vous pouvez même aller sur le site de l'ATP, hein, je peux envoyer le lien à la Fédé si vous voulez, c'est très simple. Tout le monde savait que Benoît Paire pouvait décrocher le pompon. Quelques journalistes ont soulevé le lièvre et Paire s'est évidemment engouffré dans la brèche. Remonté comme une pendule, il aligne les succès dans un challenger en Italie, si bien qu'à midi, il va se présenter sur le court face à un Italien, sachant que s'il l'emporte, il dépassera Hugo Gaston à ce classement live. Donc pour lui, la wildcard serait un dû. À ce moment-là, faudra suivre la réaction de la FFT. Elle peut reconnaître son erreur et accorder l'une des 4 wildcards qui lui restent, les wildcards qu'on attribue un peu à la tête du client. Ou alors, ça peut aller au clash. Un de plus, car Benoît Paire est passé en commission de litige en février dernier après un comportement odieux lors d'un challenger au Japon en 2022. Il était suspendu de compétition par équipe en France. Gilles Moreton, on le sait, là dans le viseur, estime qu'il ne répond pas aux critères d'exemplarité. Et dérouler le tapis rouge à l'Avignonnais serait considéré comme un petit camouflet. C'est probablement le message subliminal reçu par les équipes de la com lorsque le communiqué de presse a été envoyé mardi.
Merci beaucoup Eric, c'était très clair, on a bien compris le sens du débat et on a bien compris aussi que la FFT peut être embarrassée par cette histoire. Mais en même temps, Stephen, ça m'étonne de toi, il y a un règlement, on n'a pas fini le règlement et pourtant, on ne l'attribue pas à Benoît Paire.
Non, parce que j'ai souvent défendu Benoît Paire, mais là, il a dépassé les limites, il a épuisé son crédit, je pense, auprès de la FFT. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vais pas te faire son listing quand même.
Là, si on fait un règlement
attends, Jean-Christophe, la wildcard à Roland Garros, c'est pour promouvoir un garçon au mérite des résultats sportifs cette saison, est-ce qu'il a bien fait, et pour lui donner un coup de main. C'est pas le cas de Benoît Paire, qui aujourd'hui au-delà de la 100e place mondiale. C'est pour donner un coup de pouce à un jeune pour lancer sa carrière. C'est une récompense, une wildcard. On va pas envoyer Benoît Paire représenter la France alors qu'il a déféqué sur la Fédération Française de Tennis depuis 2 ans. À un moment donné, il faut arrêter. Benoît Paire, c'est celui qui était à Rio aux Jeux Olympiques en 2016, exclu de la délégation française parce qu'il voulait pas dormir au village olympique et qu'il préférait aller dans un hôtel 5 étoiles rejoindre sa compagne pour dormir. C'est ça, Benoît Paire.
Tu me parles d'un truc il y a 7 ans.
Oui, mais alors ça, plus ça, plus ça, plus ça.
On va pas effacer
tout ce qui s'est passé quand même. Benoît Paire, c'est 2 commissions de discipline. Benoît Paire, je crache sur une marque. C'est Benoît Paire, je gâche le talent que j'ai au tennis. Et Benoît Paire,
à un moment donné, il représente
la Fédération française de tennis.
Moi, j'ai dit non, mais je veux dire oui parce que c'est indéfendable ce que tu dis.
Pourquoi c'est indéfendable?
Parce que
tu racontes.
répondable. Et quand on a dit, c'est ce qui n'est pas répondable.
Mais ce, comme le dit très bien JC, ce qui a été fait a été, tu vas pas revenir sur un passé d'un mec. Après, tu peux pardonner un mec.
Amnistie générale.
Mais non, c'est pas amnistie. À ce moment-là, tu exclues carrément du tennis. Et tu dis, ce mec est plus joueur de tennis.
Mais attendez, c'est un concours d'entrée.
C'est un concours. C'est un concours.
C'est pas une récompense pour tout, là.
Non, moi, je suis d'accord. Bien sûr que c'est une récompense. Attends,
il a été basé sur un règlement qui est très clair.
Alors, pas si clair que ça, puisque tu commences ton papier en nous disant le règlement est basé sur le fait que ça se juge au mérite. Et tu l'as dit, c'est très important, c'est au mérite. Bah, tout dépend de ce qu'on attribue derrière le mot.
Le mérite sportif pour la première place, Arthur Fils l'a largement gagné. Et ensuite, ça se joue sur un classement. Et pour l'instant, le classement, c'est au 15 mai que ça doit être arrêté. Et pardonnez-moi, on est le 13 mai, quand ça a été publié, on était le 9 mai, il restait encore 6 jours. Et pourtant, on dit non, mais ça, en fait, c'est notre
règlement. Je sais.
Là, il est clair que la fédération a voulu se le payer. C'est clair et net. Voilà. Je sais pas si
c'est normal, non?
Je pense pas que ce soit juste dans le sens où il y a un règlement. Maintenant, ici, à ce moment-là, on bafoue tous les règlements et on dit, ben, tant pis. Mais là, tu peux pas changer.
C'est quand même souvent le cas.
Tu peux pas changer. À partir du moment où il y a un classement sur la race, je suis désolé. Et là où je vais rejoindre Eric, c'est qu'il y a, un mec et un et deux. S'il gagne à midi, il sera numéro un,
Père. Et pardon, si Benoît Père est le meilleur, il mérite autant que les autres d'y aller.
Alors, c'est pas des wildcards. Elles sont attribuées au classement. C'est pas des wildcards. C'est pas la discrétion de la fédération française.
On parle effectivement de wildcards différents.
Différentes.
Parce que j'ai dit, il y a deux wildcards qui sont attribués au mérite sportif. Je suis peut-être oublié ce terme.
Moi, je suis sur le mérite déjà.
Vas-y, Christophe.
Moi, je vais pas pleurer sur le cas de Benoît Paire.
Personne ne pleure.
Après tout ce qu'il a. Bah, si, tu pleures. Tu
pas
pleures.
Du
ça
tout.
Fait un quart d'heure que tu pleures.
Non, j'essaie d'être juste. Tiens, mentor. J'essaie d'être juste. Après, Benoît Paire, il m'a exaspéré comme Stephen. Il a exaspéré Stephen. C'est pas vrai. Parfois, je le trouve indéfendable.
Mais là, c'est pas pareil. Je vais donc pas pleurer à la différence de toi sur le cas de Benoît Paire. Mais je pense que la Fédé ferait une erreur en ne lui accordant pas de wildcard. Pas pour des raisons sportives, voilà, pas pour des raisons éthiques.
Pour remplir le stade.
Parce qu'en plus, s'il passe un tour ou deux, ce sera déjà un miracle. Mais parce que le tennis français est en mal de champion, il n'y en a pas. Et pour les suppléer, elle a besoin de personnages. Et Benoît Paire,
prends sur Barami, Yannick Noah, fais les jouer sur Châtrier.
T'as besoin de bad boy, toi, aujourd'hui. C'est ce que tu dis.
Je pense que le tennis français a besoin de personnalité, ouais. T'en as beaucoup de personnalités dans le tennis français.
Il y a aussi l'exemplarité.
Le petit désolé. Arthur Fils.
Oui, mais il y a l'exemplarité aussi.
Chaque fois que je dis un truc, tu dis le contraire.
Non, pas du tout.
C'est le principe de l'émission. Les garçons.
Juste Marie. Je suis d'accord avec Christophe quand même. C'est-à-dire que Denis, il y a Stephen qui parle.
Mais je te dis par rapport au classement, vous n'avez pas compris. Je vais dans le sens d'Eric, qui était très clair. Et quand je écoute Eric, je me dis, c'est lui qui a raison.
Mais Eric, il va dans le sens.
Ça veut pas dire. Je vais finir ma démonstration ou tu vas dire le contraire encore pendant 10 minutes. Alors, lui, on l'adore ou on le déteste, mais en tout cas, il laisse pas indifférent. Et le public a besoin de personnages comme ça. Benoît Paire sur le central, sur le Langlen, c'est l'assurance que le cours sera rempli, Eric.
Il sera rempli.
Tout le monde va venir le voir.
Non, mais les garçons,
tout le monde va venir le voir. Et on a tellement les tennis français dans un tel état d'éliquescence que on a besoin de ce genre de mecs.
On a besoin de résultats.
Mais non,
on n'a pas besoin de mecs qui font le cirque sur le terrain. On a besoin de
mais bon, avec les autres, il va y avoir des résultats.
Les tops au classement sont invités. Les tops au classement sont là, ils sont invités. Ces wildcards, elles sont pour ceux qui sont un peu sur la bubble, ceux qui sont pas dans le top des points.
Ils jouent à la bubble ?
Non, qui sont sur la bubble, c'est le qui sont sur le fil du rasoir. Voilà. Donc pour ces gens-là, il y a ces wildcards. Si le choix de la Fédé doit se faire entre un Hugo Gaston qui anime Roland Garros d'année en année, on l'a vu jouer encore l'année dernière, qui va jusqu'en huitième, et un Benoît Paire qui est loin d'être exemplaire et ne va pas forcément nous amener un grand tennis. Moi, je comprends très bien que la Fédé, pour ses places un petit peu cadeau, c'est une pochette surprise. Cette
mais il faut être honnête aussi.
Elle s'axe sur. Mais bien sûr que
vous
si, évidemment,
pas c'est pas un compris, choix. Voilà.
C'est basé
un
sur un règlement, qui est très limpide pour éviter justement. Justement, les magouilles d'avant.
C'est pas la magouille.
Excusez-moi. Est-ce que je peux demander à Denis Charvet, Denis, alors pour ou contre Benoît Paire à Roland Garros et prends une décision une bonne fois pour toutes. Dis-moi. Bon,
pour ou contre, si le règlement l'autorise, oui.
T'es dans un légalisme incroyable.
Pas du tout. Puis en plus, Benoît Paire, il a aucune chance de gagner le premier tour. Donc je veux dire, laissez-le faire le premier tour et puis ça n'ira.
Eh ben non, prenons Gaston.
Mais si, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire.
D'ailleurs,
mais par contre, dans ton raisonnement, le public et tout, mais c'est faux ce que tu dis. Je suis même pas sûr que le public ait envie de voir Benoît Paire.
Ah ouais. si, parce que même pour aller le siffler, les gens ont envie d'aller le voir. Non, Eric, chaque fois qu'il est sur un court, ça remplit les travées.
Il laisse pas indifférent, c'est clair, oui. Bien sûr.
Et c'est dommage d'ailleurs.
Mais
oui.
Mais il remplira le court 14 s'il fait les qualifs.
Mais vous vous rendez compte quel camouflet ça serait pour la Fédération française de tennis qui ne veut plus de Benoît Paire, enfin ne veut plus aider Benoît Paire par rapport à tout ce qu'il a fait, être obligé de lui dire bah bravo Benoît, tu as gagné ton droit de représenter la France.
C'est le jeu, Stéphane, c'est le jeu.
C'est le jeu. À un moment donné, tu peux pas chier comme ça pendant 2 ans sur le tennis français et après te battre pour avoir un
droit. À ce moment-là, tu fais notre règlement, sachant que Benoît Paire peut être qualifié.
Oui, il fallait mettre un petit astérix à ce moment-là. Oui,
voilà. Je vais aller un peu plus loin. Non, mais c'est pas ça. Je vais aller un peu plus loin dans ton raisonnement. Toi, tu considères que Benoît Paire, il fait ce qu'il fait et à la rigueur, ça le regarde.
On assume les conséquences.
Mais en revanche, tu viens pas de réclamer une wildcard derrière. C'est ton point de vue. Même si tu as droit, pour toi, c'est bon.
Mais pour rigoler, les boules, tu gagnes les qualifs. Mais tu fais un foc, un middle finger à Amélie Mauresmo, à Gilles Breton.
Je crois qu'on a fait le tour de la question au niveau de.
C'est son job quand même. Ça représente 60 000 euros, je crois.
Mais il ne réclame rien. Il participe juste à un concours.
Que ça veut dire wildcard? C'est une invitation privilégiée, terme utilisé en tennis pour désigner une autorisation exceptionnelle accordée à un joueur, une joueuse, de participer à un tournoi, bien qu'elle ne réponde pas aux critères communs de sélection.
Au premier critère, puisqu'il n'est pas dans le cut.
Alors, ce ne sont pas des wildcards.
Ah ben, on est d'accord. Faut changer le terme.
Faut changer le terme. Voilà, la problématique est là, c'est la sémantique, Eric, qui est pas bonne.
Absolument.
Fait depuis le début.
Mais on a résolu le problème.
On a résolu le problème. Sauf que.
Petite question, Eric. Si jamais Benoît gagne là en demi-finale et qu'il est en finale du Challenger qui passe devant, est-ce qu'il y a un recours au niveau du tribunal? Est-ce qu'il y a quelque chose?
Je pense qu'il est conseillé par son agence, c'est le frère de Gaël Monfils qui travaille pour l'agence IMG. Je pense qu'ils ont les moyens juridiques, pourquoi pas d'aller au tribunal arbitral du sport pour défendre leur place.
On rappelle qu'une qualification pour Roland Garros, même pour le premier tour, il se fait en premier tour, c'est 62 000 euros.
69.
C'est ce que je te dis, 69 000.
C'est un énorme préjudice, quand même.
Eric, le tribunal arbitral du sport pour juger d'une wildcard non attribuée ou pas, mais vous êtes tombé sur la tête.
Mais c'est un concours d'entrée. Tu une grande école pour une injustice, tu vas pas défendre ton cas.
Tu aimes pas, mais la wildcard, le principe de la wildcard, c'est que t'as des gens qui décident de la donner à quelqu'un. C'est comme quand.
Pour 4 wildcards, mais pas ces deux-là, tu confonds tout. Tu ne comprends pas le problème. Je suis mal expliqué, je suis désolé.
Certainement.
Mais non, mais il a raison.
T'es pas clair, je suis désolé.
Il y a deux wildcards spécifiques.
Des wildcards attribués aux sportifs.
Mais
si,
oui, c'est
pas des wildcards.
C'est des concours.
C'est un truc que tu donnes à quelqu'un.
Non, il y a un mini championnat. Il y a un espèce de mini championnat sur la saison. Et les deux premiers Français de ce mini championnat se voient attribuer 2 places pour Roland Garros. Voilà.
Mais à ce que je sache, il n'est pas hors jeu quand même, Benoît Paire. C'est là où le débat il est.
A priori, si.
Mais en quoi il est hors jeu?
Pour ses wildcards aussi.
Quel niveau?
Non, mais je veux dire, s'il gagne en demi-finale, normalement, il devrait avoir la wildcard.
Non, parce qu'ils ont déjà utilisé les deux wildcards.
Par rapport au règlement.
Non, mais la Fédé pourrait faire un geste en disant, il en reste 4 invitations à attribuer.
On en donne une 3e.
Et on finit.
Voilà.
Tu crois qu'ils vont le faire, toi?
Je ne sais pas.
Ce sera l'une des interrogations du week-end. On va suivre forcément attentivement le match de Benoît Paire.
À quelle heure le match?
À midi. Alors, midi. Je dis aux gens de la Fédé, on peut voir le match sur le site de l'ATP aussi. Je peux leur envoyer le lien aussi.
J'ai l'impression qu'Éric Salio est venu régler des comptes.
J'ai entendu dire qu'il ne connaissait pas l'existence de ce classement race. Non, mais je tombe de ma chaise.
Fais gaffe parce qu'ils vont
en plus, tu es à Roland, toi.
Benoît Paire est miraculeux. Pourquoi tu l'étais à wildcard pour Roland?
Benoît Paire, sur le tournoi, il est miraculeux. Il a sauvé 5 balles de match quand même.
Ah voilà, donc il mérite.
S'il perd tout à l'heure, il n'y a pas de.
S'il perd tout à l'heure, le problème est réglé, il fera les qualifs.
Et ça sera plein pour les qualifs.
C'est bien aussi pour les qualifications d'avoir
commencé. C'est l'intérêt numéro 14, il y a 200 personnes.
Allez, 9h45, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On s'en fout pas. Reste avec nous, Eric Salio. Une vidéo qui fait trembler les fans de Nadal. On en parle tout de suite.
Une sextape?
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h48 de retour dans les grandes gueules du sport avec Marie Martineau, Denis Charvet, Stephen Brun, Christophe Cessieux. C'est fou comme à chaque fois que nous parlons de Benoît Paire, à chaque fois le studio s'emballe. On en parle encore pendant la pub. Tout le monde se marche dessus. C'est vrai que Benoît Paire, à chaque fois ça marche. Je pense qu'on va faire un jour un
percho.
Oui, c'est possible. 3 heures sur Benoît Paire. Ouais. Je pense que ça pourrait.
Rappelez-moi de pas venir.
Parfaitement fonctionner.
Christophe, après 45 ans de radio,
Quand il en aura marre d'être champion de tennis. Oui. Il pourrait peut-être postuler aux grandes gueules. Hein.
Ah oui, mais il a déjà bossé pour nous.
Bien sûr, il a été consultant pour la finale de la Coupe Davis.
Et alors, il était parfait.
Il était sage.
et j'avais envoyé un message à son agent qui m'a dit merci mais on va passer pour cette année. Ça c'était en début de saison.
Mais je l'ai proposé
parce qu'ils se sont renseignés sur le casting, ils ont vu Marion Bartoli, ils ont dit bon merci beaucoup, à bientôt.
Pourtant je l'avais pas cité dans mon message. Bref, à partir de 10h on parlera de l'Olympique de Marseille qui s'est plaint de l'arbitrage. Il y aura une team, c'est indigne de l'OM, une team c'est digne, ce sera un 2 contre 2, mais tout de suite on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner, c'est la vidéo qui fait trembler les fans de Nadal. On s'en fout, on s'en fout pas. Marie Martineau.
Là, je m'en fous pas, je l'ai pas vu.
Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Ok, Stephen.
Moi, je m'en fous complètement. Cette vidéo n'a pas l'intérêt pour moi.
C'est vrai, pourtant, je trouvais que tu avais une analyse pertinente.
Ça ne veut rien dire.
Okay, si je dis je m'en fous, Marie qui n'a pas vu la vidéo.
Être la seule à. Ouais, non, mais vas-y.
Il y a Eric Salio, c'est pas grave.
J'ai un peu de suite dans les idées, vas-y.
Tu t'en fous, parfait. Raphaël Nadal va-t-il disputer Roland Garros? C'est la question que tous les amoureux de tennis se posent à deux semaines du Grand Chelem parisien. Et une vidéo, donc postée cette semaine, a créé l'angoisse chez les fans de l'Espagnol. On peut y voir Raphaël Nadal, entouré de son staff, en grande souffrance à la fin d'un entraînement. C'était mercredi dernier à son académie à Majorque. On parle soit d'un simple coup de fatigue, soit d'une rechute, une blessure pour le Majorquin. Une petite explication de texte avec toi, Eric Salio.
Non, à partir du moment où je ne suis pas sur place, je ne peux pas dire. Effectivement, toutes les hypothèses sont possibles. Il a peut-être fait un exercice extrêmement dur physiquement. D'après ce qu'on croit savoir, c'est un fan qui était sur place à Manacor, okay. qui a balancé que 45 secondes. Et d'après ce qu'on sait, derrière, il s'est entraîné normalement. Donc on reste inquiet quant à la participation de Nadal, mais on va pas trop en faire sur cette vidéo. Enfin, moi, je suis journaliste, j'ai ma carte de presse.
Si ça m'avait intéressé, j'aurais dit la même chose, Eric. Ouais,
voilà. Alors, la vraie information, c'est quand même qu'Eric Salio a sa carte de presse et félicitations pour ta carrière.
Ce qui lui permet de remporter le tournoi de journalistes à Monte Carlo.
Bah, c'est pour ça qu'il la demande. Hein.
Oui, non, j'ai fait demi-finaliste parce que le tableau était mal foutu.
Mériter la finale. Il repart revenir sur cette histoire. Il tape encore sur la fédé.
On va t'appeler Benoît Père, toi, bientôt.
Ok. Allez, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est l'exploit de la Roca Team qui se qualifie pour le Final Four. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Ok, Marie Martineau.
M'en fous.
Ok, Stéphane.
Je m'en fous pas, je me suis régalé.
La Roca Team entre donc un peu plus dans l'histoire du basket français. Monaco est devenu le premier représentant tricolore qualifié pour le Final Four de l'Euroleague depuis Villeurbanne en 1997, après avoir remporté le match 5 de son quart de finale face au Maccabi Tel Aviv. C'était mercredi soir à Monaco. La SM qui va désormais affronter le premier de la saison régulière, l'Olympiakos, en demi-finale. Juste écoutez Yacouba Ouattara après cette magnifique performance.
Soirée historique, hein. On savait que ça allait être un match historique. Déjà, faut remercier le public parce que l'ambiance, elle était vraiment à la hauteur de l'événement. J'ai pas les mots, je suis tellement fier en tant que capitaine de l'équipe d'avoir marqué l'histoire, hein, tout simplement.
On peut déjà marquer l'histoire en allant en demi-finale, Christophe Cessieux?
Bah, vu l'état dans lequel était le basket français pendant des années, en tous les cas le basket de club, oui, tu as déjà marqué l'histoire. Après, la grande histoire, elle a été marquée par Limoges, qui a été la première équipe française à remporter la
Coupe d'Europe.
La plus grande des Coupes d'Europe, la Coupe des Champions, qui est devenue l'Euroleague. Donc, évidemment, c'est eux qui ont marqué l'histoire. Mais si Monaco réussit le même exploit, là, oui, ils seront à hauteur de Limoges. Mais c'est toujours le premier qui retient l'attention. Tout le monde se souviendra de Limoges, comme tout le monde se souviendra de l'OM.
C'est dans l'histoire quand tu gagnes. Hein. Je suis désolé, mais il faut que
tu gagnes. Oui, mais quand tu gagnes le premier, c'est encore plus fort.
Ok,
en tout cas, je suis très content que Christophe se soit intéressé à la Roca Team. Parce que la semaine dernière, en fait, tu savais pas, t'étais en vacances pour la 24e fois de l'année, mais on avait fait un débat sur Monaco et ça avait pas intéressé Christophe.
Non, alors.
Et là, ça l'intéresse.
Alors, je vais préciser. Et la question, c'était, est-ce que vous êtes prêt à vous enflammer pour la Roca Team? Et j'avais dit non. Et je suis toujours,
Je m'enflamme, moi.
Tu t'enflammes?
À la fin de match, il est extraordinaire.
Le
match 5, il s'est passé quelque chose sur un match 5.
Le niveau de jeu sur un match 5 entre Monaco et Maccabi Tel Aviv, c'était hors norme en termes d'adresse, en termes d'intensité.
Mais
c'était un énorme match.
Je mets un bémol, c'est que pour moi, Monaco, c'est une équipe du championnat de France, mais c'est pas une équipe française. Tu vois, dirigée par un Ukrainien, entraînée par un Serbe, avec 3 ou 4 joueurs français. J'ai du mal à m'identifier à cette équipe, même si Monaco, c'est à 20 km de là où je suis né. Mais pour moi, c'est une grande équipe, mais c'est pas une équipe française. Voilà.
En tout cas, le format demi-finale-finale, c'est sur un match.
Et donc, sur un match, possible. Monaco peut taper Olympiakos, sachant qu'en saison régulière, Monaco est une des deux seules équipes à avoir battu deux fois l'équipe grecque en saison régulière. Donc, ils ont déjà un avantage psychologique. C'est à Kaunas, c'est vendredi à 17h, et ça sera blindé. Et Monaco a une vraie chance d'atteindre la finale de la Coupe
d'Europe. Et tu seras.
J'y serai.
Ok. Yes. Et alors, remporter le Final Four, là, ça te paraît, ça te paraît possible?
Ça me paraît possible. Je te dis que le format, en fait, le plus dur, c'est le quart de finale où il faut gagner trois matchs. Après, le format demi-finale, finale sur un match. Alors là, tout peut arriver.
Mais il n'y a pas de favori.
Après, le problème, c'est qu'ils vont arriver face au Olympiakos, qui a gagné 4 ou 5 fois déjà la compétition, le Real Madrid, qui l'a gagné 10 fois, et Barcelone, qui l'a gagné 4 ou 5 fois. Donc, des monuments du basket européen qui ont l'habitude de ce genre d'événement. Il va falloir gérer le stress, gérer l'appréhension de cette compétition-là. Ils vont jouer devant 16 000 personnes. Mais je te dis que cette équipe de Monaco est l'archétype même de l'équipe qui peut battre n'importe qui sur une rencontre.
Et il faut le dire, c'est déjà une performance exceptionnelle. Oui. Et on suivra forcément ce Final Four.
J'espère
avec
bien.
Toi, notamment, mon Stephen. On en parlera la semaine prochaine dans les Grandes Gueules du Sport. Un très beau cadeau à vous offrir à deux d'entre vous, des packs pour assister à la célèbre course. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous la donner, cette célèbre course. La Charade Super Show. Et ce n'est pas avec
Fred Pouillet.
C'est pas avec Fred Pouillet du Fred SMS. Pouillet, ça se déroule dans le Puy de Dôme, dimanche 21 mai.
Charade
Super Show est le dernier circuit de montagne en France. Les plus grands pilotes historiques seront présents, comme Sébastien Loeb, Jackie X, que nous aurons demain en invité car nous serons au Mans pour le Grand Prix MotoGP. Oui, merci Stephen. Ce matin, nous vous offrons deux entrées VIP, l'hôtel, le transport pour deux personnes pour remporter ce pack VIP pour le Charade Super Show. Vous envoyez RMC au 732-16, RMC au 732-16.
Stephen, Charade.
Oh la vache!
Oh là 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 là, je pensais pas qu'il allait.
Et Stephen vous accompagnera pour le Charade Super Show, parce qu'il a plein de vannes justement sur cette compétition.
Une vanne par seconde.
9h56, on se retrouve dans quelques instants. L'OM s'est plaint de l'arbitrage cette semaine. Digne ou indigne, ce sera le bras de fer. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.